Un cœur par Jean Rameau. Chapitre 1er. Laurent de Kercadec s'assit devant sa table, prit la plume et se mit à écrire. Mon cher maître, je vous prie de ne pas me croire fou, malgré la proposition étrange que je vais vous faire. Fou, je suis bien persuadé que je ne le suis point. Mais je dois reconnaître que depuis quelques jours, je suis extrêmement nerveux et même complètement bouleversé. Voici pourquoi. J'ai lu dans les journaux le compte-rendu analytique d'une récente séance de l'Académie de médecine. Des communications qui ont été faites au cours de cette séance, il résulte qu'un cœur humain extirpé d'une poitrine peut vivre encore, indépendamment du corps auquel il appartenait, qu'il peut battre, prospérer, remplir toutes ses fonctions de cœur, et cela pendant des semaines, des mois. C'est fantastique et c'est scientifique. Aucun doute ne paraît plus devoir flotter autour de cette extraordinaire découverte. Le corps médical l'admet, vous l'admettez vous-même, puisque vous avez pris la parole au cours de cette mémorable séance et pour confirmer tout ce que vos collègues y avaient dit. C'est donc sérieux. Et ce qui consacre la découverte, c'est le prix Nobel qui vient d'être attribué à son auteur. Depuis que j'ai lu ces choses prodigieuses, je me trouve dans un état de surexcitation extrême et je demande la permission de vous en exposer les causes. Vous savez, docteur, que j'aime mademoiselle votre fille. Vous êtes même le seul à le savoir. Vous m'avez défendu de laisser soupçonner cet amour à mademoiselle André. Et mademoiselle André ne soupçonne pas, ne soupçonnera jamais à quel point je la chéris. Ce silence qui m'a été fort pénible, je dois l'avouer, vous me l'avez imposé dans l'intérêt même de mademoiselle votre fille. Et j'ai obéi respectueusement après avoir entendu vos douloureuses confidences. Ma fille, m'avez-vous dit, ne pourra jamais être votre femme. Elle ne pourra jamais avoir de mari, avoir d'enfant, parce que les joies du mariage, les douleurs de la maternité, toutes les fortes émotions qui ébranlent une femme jusqu'aux sources de la vie, à l'époque où la nature la rend capable de donner la vie, lui seraient certainement fatales. Et mon devoir de médecin, ma tendresse de père doivent s'unir inflexiblement pour l'empêcher de se marier. Et tristement, avec des mots dont je me rappelle encore le son effroyable, vous m'avez expliqué que mademoiselle votre fille ne portait pas dans sa poitrine un cœur normal, qu'elle souffrait de ce que vous nommez dans votre langage médical une insuffisance mitrale. Est-ce bien là le terme scientifique? Je ne sais plus trop, mon cher maître, mais ce que je n'ai pas oublié, c'est que le cœur de mademoiselle André, d'après vos propres déclarations, était constitué de telle sorte que ses jours pouvaient être comptés et qu'elle mourrait probablement très jeune. Ce diagnostic affreux que je vous ai vu formuler avec des yeux pleins de larmes ne s'est que trop confirmé depuis quelques mois. La santé de votre fille n'a fait qu'empirer de jour en jour. La semaine dernière, j'ai appris qu'André était gravement malade. Des symptômes se sont déjà produits, je ne l'ignore pas, qui ne me laissent aucune espérance. Vous-même, son père, vous ne pouvez plus vous abuser. Et dans votre dernière entrevue, vous m'avez laissé entendre que c'était à présent l'affaire de quelques semaines. À Saint-Cloud, à la villa paisible où vous l'avez fait transporter, j'ai lu, dans les yeux de votre personnel, l'affreux dénouement qui semble proche. C'est donc irrémédiable. Mon cher maître, mon illustre ami, pauvre père qui n'espérait plus et dont la vie, croyez-vous, sera ébranlée dans ses racines si cette vie de votre unique enfant vous est ravie. Laissez-moi maintenant vous faire une proposition désespérée, mais bien sincère, bien raisonnable, oui, très raisonnable, malgré la suspicion de démence que vous pourriez lui trouver de prime abord. J'ai un cœur normal, moi, du moins j'aime à le croire, un cœur sain, robuste, fonctionnant admirablement, et en qualité de médecin de la famille, vous avez pu le constater vous-même bien des fois. Or, je vous le répète, j'adore mademoiselle André, et sans elle, je ne crois pas que je puisse trouver le courage de vivre, moi non plus. Bien des fois, pareillement à vous, j'ai envisagé l'avenir terrifiant, et je suis arrivé à cette certitude que le jour où mademoiselle André disparaîtrait, je n'aurais plus qu'à disparaître comme elle. Alors, ne devinez-vous pas le projet que j'ai conçu, le projet logique et salutaire peut-être, qui s'impose, que mon amour me dicte, que vous devez approuver. Mon cher maître, prenez mon cœur. Je vous l'offre pour le salut de votre enfant. Vous avez, comme ami intime, l'un des plus grands chirurgiens de Paris, le docteur Fargas. Certaines opérations de ce chirurgien, vous l'avez reconnu vous-même, ressemblent à des miracles. Que le docteur Fargas prenne donc mon cœur, mon inutile cœur, qui ne pourrait plus vivre dans ma poitrine, qu'il le place dans la poitrine de mademoiselle André, et elle vivra peut-être. Oh, je sais bien que dans l'état actuel de la science, la réussite d'une opération aussi hardie, aussi nouvelle, est tout au moins problématique. Autre chose est de faire vivre un cœur 3 semaines après la mort du corps humain qu'il actionnait, et de replacer ce cœur dans une poitrine étrangère, de ressouder les artères différentes, d'y assurer la circulation, d'en faire un instrument parfait de vie. Mais qui sait ce qu'on obtiendra demain? Qui sait tout ce qu'un savant de génie et d'audace, comme le docteur Fargas, pourrait obtenir aujourd'hui même si un tel cas se présentait à lui? Ah, qu'il essaye, pour l'amour de Dieu et pour l'amour que j'ai voué à mademoiselle votre fille. N'y eut-il qu'une chance sur 10, sur 100, sur 1000? Mon devoir d'amoureux condamné serait encore de m'offrir pour le salut de cet autre condamné. Et votre devoir à vous, quel est-il? Descendez au fond de votre conscience de père, de médecin, de savant intéressé au progrès de la science médicale, et posez-vous là cette importante question: quel est votre devoir en présence d'une proposition pareille? N'hésitez pas, exaucez-moi, docteur. Pour votre fille, pour vous, tentez cela. Tentez-le pour moi aussi, car je serais singulièrement heureux si mon cœur, désormais sans but, revivait dans la femme que j'aurais la plus aimée sur la terre. Ce serait moi un peu. Ce serait ma vie qui se prolongerait dans cette nouvelle vie d'André. Son cœur serait le mien. Son amour, quel qu'il fût plus tard, lui viendrait du foyer de mon amour à moi. Ainsi serait effectuée enfin cette communion intime, cette fusion des êtres dont on rêvait tous les amants depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Deux en un, non plus seulement au point de vue moral, mais au point de vue physique. Et vous pourriez, docteur, vous pourriez avouer plus tard à mademoiselle André, quand elle serait épouse et mère, ce que j'aurais fait pour elle. Et sans doute, elle chérira mon souvenir, et son cœur, mon cœur, se retournera tendrement, égoïstement, vers celui qu'il aima si fort à son insu, d'un amour vraiment immortel. Vous allez consentir, n'est-ce pas, mon cher maître? Dans un instant, cette lettre sera chez vous. Je vous attends ce soir. Revenez, je vous en prie, et faites-vous accompagner du docteur Fargas. Dès que mon valet de chambre vous aura ouvert la porte de mon cabinet de travail, j'avalerai une pilule de strychnine. Elle est déjà là, toute prête, et mon cœur encore jeune et tout intact, sera à votre disposition. J'ai confiance, vous allez venir. Merci. Je suis, mon cher maître, votre humble et reconnaissant ami, Laurent de Kercadec. Chapitre 2e. Après avoir scellé ce papier sous une enveloppe, le jeune homme sonna son valet de chambre. « Henri, vous allez porter cette lettre chez le docteur Ducormier, tout de suite. »« Bien, monsieur. Y a-t-il une réponse ?»« Oui. Attendez la réponse et pressez-vous. C'est urgent. »« Je pars immédiatement, monsieur. » Si le docteur est chez lui, rue de Galilée, vous pouvez être revenu dans 1 heure. Et s'il n'y est pas, allez à son hôpital. À Beaujon, c'est ça. S'il n'est pas à Beaujon, informez-vous de l'endroit où il sera et rejoignez-le au plus vite, même s'il est à Saint-Cloud. Il se peut qu'il soit à Saint-Cloud, chez mademoiselle Ducormier. Dans ce cas, vous prendriez une auto. Bien, monsieur, je vais revenir le plus tôt possible. Je vous en prie. Laurent de Kercadec se retrouva seul. Alors, il alla ouvrir un petit bahut Renaissance qui occupait un panneau de son cabinet de travail. Dans ce meuble, il prit une photographie. Il la plaça au milieu de sa table à écrire, près d'une rose énorme, une Caroline Testou, qui s'effeuillait sur un livre. Il s'assit devant cette photographie et la regarda longtemps, la tête appuyée sur ses mains. C'était le portrait d'André Ducormier, un portrait en pied. Grande, jolie, florissante de jeunesse, ainsi la représentait ce carton déjà vieux de 4 ans. Tous les jours, Laurent aimait se recueillir quelques minutes devant cette image. Il s'en séparait fort peu. Avec cette photographie, il était allé en Espagne, en Grèce, dans l'Inde. Il aurait voulu être enterré avec elle. Maintenant, il se proposait de la regarder jusqu'au soir, jusqu'à l'arrivée du docteur Ducormier, de Fargas, jusqu'au moment où ses yeux devraient s'éteindre. Ah, pourvu que le père d'André consentît! mais il consentirait. Comme il l'avait écrit à la fin de sa lettre, Laurent avait confiance. Son cœur serait agréé. Pouvait-il ne pas l'être? Si Ducormier n'avait été que docteur en médecine, l'hésitation aurait semblé naturelle, sans doute, mais il était père avant tout. Et quel père ne tenterait pas l'impossible pour essayer de sauver son enfant? Oui, oui, il allait venir. Anxieusement, Laurent de Kercadec regarda la photographie d'André. Il s'hypnotisa sur ses traits purs, afin de les graver à jamais dans sa substance cérébrale. Pendant une heure, tout seul, il demeura ainsi, presque immobile, vaguement halluciné, près de la rose lasse, qui achevait de mourir, pétale à pétale. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait dans l'appartement, il tressaillait sur son fauteuil, croyant voir revenir Henri, son valet de chambre. Mais Henri tardait. Certainement, il n'avait pas trouvé le docteur Ducormier chez lui. Le jour décrut, personne encore, et la nuit arriva. Était-il donc allé jusqu'à Saint-Cloud? Se demanda Laurent. À 7h15, deux coups furent sonnés au grand escalier. « Ce sont eux » pensa-t-il. Et chancelant un peu, il se dirigea vers l'antichambre pour s'assurer. Dans un cendrier en étain, œuvre d'un artiste de Nancy, la pilule de strychnine brillait. Petite chose blanche qui enfermait la mort en elle. Chapitre 3e. La porte s'ouvrit et Laurent vit entrer une sorte de fantôme soutenu par deux personnes, un homme et une femme. Il frissonna. « André, c'est vous ? » s'écria-t-il en reconnaissant la jeune fille. « Oh, mademoiselle André, comment se fait-il ? » Et pâle de terreur, il lui balbutia. « J'attendais votre père. » André dit « Il est à Rouen, avec le docteur Fargas, pour une opération. »« Ah, mon Dieu, mais alors ce que j'écris tantôt ? » ?»« Votre lettre ? » ?»« Oui, ma lettre. C'est moi qui l'ai ouverte. » Laurent resta inerte comme un homme foudroyé. Il regarda la jeune fille, que soutenait une vieille femme de chambre et qu'Henri dirigeait aussi vers le salon. Laurent ne trouvait plus de paroles à dire pour exprimer son effroi. Son cœur, qu'il avait cru si vigoureux, devait se rompre de douleur en lui. Cependant, la jeune fille avançait à pas courts. « Où pouvons-nous causer un moment ? » demanda-t-elle d'une voix faible. D'un geste d'automate, Laurent montra la porte de son cabinet de travail. Elle se dirigea vers cette pièce. Quelques secondes après, installé dans une bergère en face de la rose, de la photographie qu'elle venait de reconnaître, André dit à la femme de chambre « Veuillez me laisser une minute, Françoise. » Henri, le domestique, sortit également. La porte fut refermée par lui. On n'entendait que la palpitation métallique d'une pendule de voyage qui grignotait des secondes, une à une, sur un coin de console. Alors, se trouvant seul en face d'André, Laurent se mit à genoux devant elle et baissa la tête comme un criminel. « Vous avez bien ouvert ma lettre ? » redemanda-t-il d'une voix assourdie par l'angoisse. « Oui, mon ami. Mais c'est affreux. Non, je savais déjà. »« Que saviez-vous ? » ?»« Que j'allais mourir. »« André ! » !»« Mais je ne savais pas que vous m'aimiez. Pardon. »« Que vous m'aimiez à ce point. Et j'ai tenu à venir vous dire merci, puisque j'en ai encore la force. Mais c'est épouvantable. Non, mon ami, ne regrettez rien, c'est très heureux. » « Mais comment cette lettre est-elle tombée entre vos mains ?»« Je vais vous l'expliquer, Laurent. C'est très simple. Quand mon père s'absente, c'est moi, ordinairement, qui ouvre ses lettres, celles qui demandent une réponse, qui sont pressées. Comme votre domestique assurait que la vôtre était pressée, qu'il avait reçu l'ordre d'aller jusqu'à l'hôpital, jusqu'à Saint-Cloud pour avoir une réponse immédiate, c'est à moi qu'on a remis la lettre. J'ai reconnu votre écriture sur l'enveloppe et je n'ai pas hésité à ouvrir. » « Quelle fatalité !»« Non !» « Relevez-vous, Laurent, c'est moi qui vais me mettre à genoux devant vous. »« Oh, pourquoi ?»« Pour vous dire que moi aussi, je vous aime. »« Vous m'aimez ? Je vous aime. » »« Et de tout mon pauvre cœur qui n'en peut plus. » »« Mais qui mourra bien tout à vous, n'ayant jamais été qu'à vous. »« Ah, mon Dieu, entendre de telles paroles, mon André, ma vie !»« Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt que vous m'aimiez ? » ?»« Puisqu'il ne fallait pas le dire. » »« Il faut toujours le dire quand on aime comme nous. » « Votre père m'avait fait connaître le danger. »« Qu'importe le danger, je vais mourir. »« Mais ma vie aura été plus belle que celle d'une reine qui aurait vécu 100 ans. »« Il y a des secondes qui valent des années, ne le sentez-vous pas ?»« Oh si. Mais alors vous allez permettre, dites, quoi donc ?»« Je peux vous parler de cela comme à votre père lui-même, à présent, puisque vous n'ignorez plus rien, vous allez accepter. »« Votre cœur ?»« Oui, mon cœur. Quelle démence !» « Ne parlez pas de démence, vous savez bien que c'est sérieux. »« Non, Laurent, je n'accepte pas votre cœur, J'ai du bon sens, moi. Je sais faire la différence entre une expérience de laboratoire et une opération véritable. Pauvre illuminé. Cependant, pauvre poète. Il s'écoulera bien des années encore avant qu'on puisse transplanter un cœur d'une poitrine dans une autre. Mais à l'Académie de médecine, et le pourrait-on déjà que je n'accepterais pas davantage votre folle, votre si chère proposition? Mais pourquoi? Parce qu'il faut que vous viviez, mon ami. Vivre, pourquoi vivre? Pour penser à moi. Je ne mourrai pas tout entière si vous pensez à moi, si vous continuez à m'aimer comme vous le faites. Il faut vivre, Laurent, je vous l'ordonne, égoïstement. Vivre pour vous souvenir, vivre pour que la véritable mort, l'oubli, ne m'atteigne pas. Et se redressant, André dit « Jurez que vous vivrez. Oh, taisez-vous. Dans quelques minutes, je vais tomber à vos pieds peut-être, le cœur rompu. Jurez !» Pendant que j'ai la force d'entendre encore. « André, au nom de notre amour, jure. Je ne peux pas. Si, si, tu vivras, dis, tu vivras. » Il sanglota. « Oui. Eh bien, un baiser alors, le premier, le dernier. Un baiser pur comme notre amour. Donne. Mais... « Embrassez-moi » ordonna-t-elle d'une voix qui avait déjà un son d'outre-tombe. « Et que Dieu soit loué, s'il me permet d'expirer à 7 minutes. Vous vouliez me donner votre cœur? Vous allez porter mon âme en vous pour toujours. » Elle s'était remise debout. Elle frémissait toute. Dans ses yeux brillaient des lueurs surnaturelles. Sur son visage, la beauté d'autrefois semblait revenue. Il la regarda, ébloui. « Non, non, » dit-il en reculant tout à coup, « ce serait un crime. » « Laurent, vous ne voulez pas ? Non, je ne veux pas. »« C'est bien. Vous me tuez quand même. » Et André tomba. Quelques minutes après, malgré tous les soins, elle cessait de respirer. Mais, ayant vu ses lèvres trembler une dernière fois dans son visage violacé de cardiaque, Laurent, docile, s'inclina chastement sur elle. Et ce dut bien être un peu de l'âme qu'il sentit entrer en lui. Jean Rameau.